Bien, normalement, si tout va bien, c'est l'avant-dernier message sur Josué. On terminera avec les Gabaonites. Là, on en est à Jéricho. Mais avant de commencer, je pense qu'il y a un point qui est très, très important. Quand j'étais petite, j'ai commencé à lire ma Bible, dès que j'ai appris à lire, vers 6 ans. Et il y a un truc qui m'a quand même choquée. Et quand on est petit, je comprends que ça choque. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui envahissaient un pays habité et qui tuaient tout le monde? Et quand on regarde les livres d'histoire, l'occupation de Canaan est souvent comparée à une invasion de la part d'un tout un tas de maraudeurs en quête de terre. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, on peut finir par penser ça. Hein. J'aime bien prendre mes sources, vous le savez bien, dans des livres non chrétiens. Donc souvent, ils présentent les choses comme ça. Des tribus un peu disparates qui ont trouvé cette terre intéressante et qui s'y sont installées petit à petit, à force de marauder, tuer ici, tuer là, gagner une ville ici, une ville là. Alors ça, c'est une image assez curieuse et qui ne correspond pas à la réalité. On a récemment retrouvé des lettres de villes cananéennes qui criaient au secours au pharaon parce qu'il y avait ce peuple qui avançait. Donc bon, ça confirme bien ce qu'on savait dans la Bible. Mais pour nous, chrétiens, c'est important de voir que l'occupation de Canaan n'est pas une simple invasion pour avoir une terre. Ça, il faut bien se retirer ça de la tête, parce que ce n'est pas du tout ça. Depuis Genèse 12, verset 3, on va retrouver ce thème dans la Bible. Dieu avait choisi un homme, puis il a choisi un peuple. Et il avait choisi pour ce peuple une terre. Pas pour que le peuple se régale du lait et du miel, simplement, mais parce qu'il avait un plan pour ce peuple. Et vous allez voir, quand ça s'applique à nous, ça devient beaucoup plus intéressant, naturellement. Il avait un plan pour ce peuple qui était d'être une lumière pour les nations. Bénédiction, une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc on n'est pas là dans un peuple qui envahit pour s'emparer d'eux, mais dans un peuple qui a fait une alliance avec Dieu, qui doit rentrer dans un plan de Dieu. Et d'ailleurs, si vous regardez de près, vous allez voir que ce n'était pas simple. Parce que ils ont pas toujours, ils se sont pas toujours attachés à cette terre. Parce qu'il y a des moments où cette terre leur a pesé. Vous avez vu Abraham, qui est allé en Égypte déjà. Bon, Dieu l'a obligé à revenir, mais ça n'a pas été évident. Et puis après, avec Joseph, les voilà repartis en Égypte pour 400 ans. Bon, ils sont restés plus longtemps qu'ils ne le voulaient. Mais tant que ça allait bien, ils seraient restés. Ils se trouvaient bien, eux, là-bas. Donc Dieu a été obligé de les ramener un petit peu de force avec Moïse. Et puis, il a fallu revenir dans le pays. Donc, vous voyez, ce n'est pas des maraudeurs qui cherchaient une terre. Parce qu'à la limite, je crois que parfois, ils auraient volontiers désobéi à Dieu et ils seraient volontiers restés en Égypte. S'ils n'avaient pas été mis en esclavage, je crois qu'ils ne seraient jamais revenus. Donc, vous voyez, là, on est loin de cette idée qui court dans certains livres d'histoire des maraudeurs qui cherchent à s'emparer d'une terre. Il faut bien se garder ça à l'esprit. Et puis, après, l'occupation de Canaan, ça aurait pu se faire de différentes manières. Dieu avait demandé la conquête et il avait demandé de ne pas se compromettre avec les ennemis, les gens, les Cananéens qui habitaient là. Alors là aussi, ça choque les enfants. Comment un peuple de Dieu pouvait tuer comme ça des gens? Alors, là aussi, je prends mes sources beaucoup dans des livres d'histoire non chrétiens, pour être sûr qu'il n'y a pas de préjugés. Et ils sont tous d'accord pour dire que les Cananéens étaient des gens épouvantables. Et si la peine de mort existait encore, on les aurait tous passés à la peine de mort. La manie qu'ils avaient de brûler leurs bébés, quand même, assez peu acceptable. Donc, pour leur dieu Baal, évidemment. Hein. Je veux dire, ils avaient quand même un mode de vie qui était épouvantable et ils n'étaient pas prêts à changer. Et il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Les cultes des Cananéens étaient terribles. Il faut aussi remarquer, et ça on va le remarquer au fil du temps, que ceux qui ont bien voulu changer de vie, on va le voir avec Rahab, étaient bienvenus. Parce que le but du peuple, c'était d'être la lumière, c'était pas de détruire tout le monde, mais d'être la lumière pour toutes les autres nations. Et on va voir ça après. Dans la fameuse histoire d'Israël, on va voir des gens qui ont été effectivement dans le plan de Dieu, c'est-à-dire appartenant au peuple, appartenant à cette terre, et qui ont été une bénédiction pour d'autres peuples. Prenez Daniel. Il a été une bénédiction pour 3 ou 4 monarques qui régnaient sur toute la Mésopotamie, sur tout le croissant fertile. Enfin, c'était quand même Ils ont été une bénédiction. Daniel, Esther, si on recule un petit peu, David et Salomon ont été, en leur temps, quand tout allait bien, vraiment une lumière pour les gens qui les environnaient, puisque Salomon, et même la reine d'Éthiopie qui est venue lui demander quand même d'où venait cette sagesse, etc. Donc, certains ont réussi à être cette lumière, mais c'était un choix. Et ça n'a pas toujours été facile de maintenir ce choix. Donc, le but, c'était, Dieu a choisi un homme, Abraham, il a choisi un peuple, Israël, il a choisi une terre pour ce peuple, non pas pour le confort du peuple, mais pour que ce peuple devienne une lumière des nations, pour qu'il puisse apporter quelque chose. Et puis, surtout, ils ont été plus ou moins bons là-dedans, hein, au fil des siècles, mais Jésus est venu dans ce peuple-là. C'était le plan de Dieu qui a commencé dès la Genèse, on y fait allusion. Donc, ils avaient des obligations dans le cadre de l'alliance que Dieu avait conclue avec eux. Et on voit que parfois, ils auraient bien évité les obligations, puis habité en Égypte, hein. Ils étaient destinés à accomplir le plan de Dieu. Donc, vous voyez, ce n'était pas simplement des gens qui cherchaient à s'emparer d'une terre. Ils avaient une alliance, ils avaient des obligations dans le sein de cette alliance. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, être la lumière. Et alors, si on applique ça à notre vie à nous, c'est aussi à démarrer avec une alliance avec Dieu. Dieu nous a choisis. On a fait une alliance avec Dieu, pour ceux qui sont engagés dans les eaux du baptême, par exemple. Hein. Vous avez fait une alliance très claire avec Dieu. Et après cette alliance, ben c'est la conquête. Alors, qu'est-ce que nous, on va conquérir? Alors, on ne va pas taper nos voisins, on ne va pas tuer nos collègues de travail, parce que là n'est pas le problème. La Bible dit, vous n'avez pas à combattre contre les hommes, hein, la chair et le sang, mais contre les choses mauvaises, les esprits mauvais dans les lieux célestes. On a nos ennemis intérieurs à combattre. Et ça, c'est beaucoup moins facile. Et parfois, on aimerait bien aussi faire des compromis avec nos ennemis intérieurs. Et c'est exactement ce qu'Israël a fait bien souvent. Ils ont fait des compromis avec les ennemis. C'était quand même plus facile. Tuer tout le monde, bon, pourquoi on ne peut pas faire des compromis avec eux? Et à chaque fois qu'ils ont fait des compromis avec les ennemis, ils ont fini par adopter leur culte, adorer leur Dieu et sacrifier leurs enfants à Dieu. C'est inconcevable. Mais ils ont quand même fini par sacrifier leurs enfants puisque les prophètes en parlent. Comment est-ce qu'ils ont pu en venir là? Mais voilà, le problème, c'est quand on commence à faire des compromis avec nos ennemis, on finit mal. Et c'est pareil dans notre vie intérieure. Si on tolère, si on fait des compromis avec nos ennemis intérieurs, alors ça peut être, c'est vous qui savez quels sont nos ennemis intérieurs, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, quels sont les liens qui nous bloquent, ça peut être des liens héréditaires, ça peut être Des malédictions, ça peut être des liens que nous, on s'est mis par des paroles négatives. Je ne serai jamais ceci, je ne serai jamais cela, je ne ferai jamais ceci. Puis on se retrouve lié et on se trouve bloqué avec ses ennemis intérieurs. Et c'est pour ça que la conquête de Canaan, elle a un intérêt pour nous au quotidien. Parce que vous allez me dire, bon, c'est bien de prêcher sur Josué, mais bon, c'était il y a plus de 3000 ans, bof, bof. Non, on a exactement le même problème dans notre vie intérieure. Conquérir ou compromettre. C'est un peu ça. Ou on fait la conquête, ou on demande à Dieu de briser nos liens, de changer dans notre vie ce qui nous bloque, ces ennemis qui sont là à l'intérieur de notre cœur. Ça peut être toutes sortes de choses, la colère, toutes sortes de choses, des paroles négatives. Ou alors on se bat, ou on va faire des compromis. Et alors les compromis, ça nous mène à la catastrophe. On va le voir dans bien d'autres circonstances, je pense plus tard aussi, quand on verra si un jour j'ai le courage de faire un peu les personnages des juges. Je recule parce qu'à chaque fois, les juges, je trouve ça pas marrant. Et vous savez pourquoi? Pourquoi les juges, c'est pas un livre marrant à lire? C'est parce que la clé est dans ce verset qui est répété plusieurs fois. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Eh bien, quand on fait chacun ce qui semble bon, je vous assure, c'est pas drôle. Mais peut-être un jour, j'aurai le courage. À chaque fois, je recule. Voilà, donc on en est. Je voulais préciser ça parce que si on reste dans l'optique d'une terre dont on essaie de s'emparer pour son propre confort, on passe à côté du message de Dieu avec Canaan, qui est vraiment, j'ai fait alliance avec un homme, j'ai fait alliance avec un peuple, je lui ai donné une terre pour qu'il soit lumière des nations et pour qu'il l'acte de salut principal de Dieu, c'est-à-dire la naissance de Jésus, se passe à l'intérieur de ce peuple. Voilà. Alors, on en était à Jéricho, je ne reviens plus en arrière. Les deux espions qui avaient été envoyés pour visiter Jéricho n'ont pas fait état de la puissance militaire, des points forts du pays. En fait, ils avaient les bons yeux puisqu'ils ont vu la confirmation de la promesse de Dieu qui était « ces gens ont peur de nous ». Pourquoi ils avaient peur? Parce que Dieu leur avait montré les choses comme elles étaient. Dieu était avec eux, donc ils avaient peur. Et quelque part, on pourrait dire que ces gens-là ont regardé au cœur et non pas à l'apparence. Tandis que vous vous rappelez, les 12 espions, 40 ans avant, ils avaient vu les murailles, les armes, le nombre. Eux, ils avaient vu ce qui se passait à l'intérieur. Ils avaient peur. Ça, c'était un bon rapport. Mais ils n'ont pas tellement dit plus sur les failles du pays. En fait, ils étaient allés pour ça. Ça ne les a pas préoccupés. Et ils avaient raison. Et avant Jéricho, il y avait un problème. C'était le passage du Jourdain. En plus, pour comble, Dieu avait permis qu'il se trouve là, au moment, c'était mars-avril, c'est pas une invention, hein, c'est dans le texte, et le fleuve débordait. Bon, c'est pas simple. Pourquoi est-ce que Dieu, moi j'aurais été là, j'aurais dit, enfin Seigneur, tu pouvais pas t'arranger pour qu'on traverse au moment où le fleuve est presque à sec. Non, Dieu avait vraiment tout fait pour que ce soit impossible. Alors dans notre vie, quand on est devant des situations impossibles comme ça, moi, j'ai plutôt tendance à dire, Seigneur, tu aurais pu faire autrement. Bon, vous, bien sûr, vous ne faites pas ça, mais moi, oui. Mais apparemment, personne n'a protesté. Et là, je trouve qu'ils avaient vraiment changé. Hein. Personne n'a rien dit. Ils étaient là devant ce fleuve qui était en grosses eaux. Ils n'ont pas bougé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la traversée se faisait à la mauvaise période? Ça veut dire qu'il fallait que ce soit clair pour eux que ça ne pouvait être que grâce à une intervention divine et miraculeuse de Dieu qu'Israël prendra possession de la terre promise. Le message est clair dès l'entrée et c'est clair pour nous aussi dans notre vie. Il n'y a qu'une intervention miraculeuse de Dieu qui peut nous donner la victoire sur nos ennemis intérieurs. Deuxièmement, les habitants du pays se croyaient certainement en sécurité pour quelques mois. Ils devaient se dire, tant que le fleuve déborde, on ne les aura pas dans les pieds. C'est déjà pas mal, ils avaient peur, mais bon, ils savaient qu'ils avaient un peu de répit. Ils n'imaginaient pas du tout qu'une armée entière allait pouvoir passer à cette période-là. Troisièmement, la traversée du Jourdain a dû les démoraliser, parce que justement, ils comptaient bien qu'ils ne passeraient pas, parce qu'ils croyaient, alors ça, c'était, vous trouvez ça aussi dans les livres d'histoire, que ces peuples croyaient que les dieux étaient des dieux locaux, géographiques. C'est-à-dire qu'un dieu qui régnait sur telle ville n'allait pas forcément avoir de pouvoir sur telle autre ville. Donc ils se disaient, bon, bah là, c'était le dieu du désert, mais une fois qu'ils vont rentrer là, leur dieu ne va pas les accompagner. Erreur. Et donc là, ça leur a fait un choc, parce qu'ils ont vu que le dieu d'Israël n'était pas limité à une zone géographique. Il était là dans le désert, il était en Égypte, il était dans le désert, et il va les accompagner. Oui. Donc ça c'est pour leurs ennemis. La première chose que Jésus va demander, c'est que le peuple se sanctifie. Alors ça, c'est un mot que personne ne comprend exactement, surtout quand on est petit. Ça veut dire quoi, se sanctifier, se consacrer? La définition est simple, c'est se mettre à part. Se séparer de toute la poussière, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Se mettre à part. Suivant les versions, vous avez se sanctifier ou se consacrer. Et Josué va demander au peuple de se sanctifier la veille du jour de la traversée. C'est intéressant parce qu'il veut être sûr que chacun mette sa vie en ordre par rapport à Dieu et par rapport à ses commandements. On ne traverse pas n'importe comment. Il fallait qu'ils sachent à qui ils appartenaient. Et c'est important dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure. On ne fait pas une conquête comme ça. Ils savaient pourquoi ils faisaient cette conquête, qui leur avait demandé. Et ça, c'est important, savoir à qui on appartient. Je ne pense pas que dans la vie, on peut démarrer une vie chrétienne chouette si on ne sait pas vraiment à qui on appartient. Là, on est dans les difficultés. Il faut savoir à qui on appartient. Il faut savoir qui nous a appelés et pourquoi il nous a appelés. Et là, la Bible a toutes les réponses. Et il ne s'agissait pas non plus d'être un pied en Égypte et un pied dans la terre promise. On a vu ce que ça donnait avec le ramassis de gens qui les accompagnaient. Un pied en Égypte, un pied dans la terre promise, c'était une catastrophe. On ne peut pas être séparés, on ne peut pas avoir un cœur divisé. C'est extrêmement fatigant. Si jamais il y a quelqu'un dans ce cas-là, je vous conseille d'arrêter parce qu'avoir un cœur partagé, essayez de marcher 1 kilomètre, un pied dans le ruisseau et un pied sur le trottoir, vous allez tout comprendre, ce n'est pas pratique, ça fait mal dans le dos. On est mal, on a mal partout et on ne peut pas être divisé comme ça. Donc il leur demande comme un dernier examen de conscience, une dernière mise au point avant d'entamer la conquête. C'est exactement pareil pour nous. En tant qu'ambassadeur de Christ, on est appelé à faire avancer le royaume de Dieu. Alors pas par la force, mais on est appelé à se lancer et parfois sans que les choses soient très claires. Dieu ne nous met pas toujours tout bien clairement. Et il faut être sûr, justement, si les choses ne sont pas toujours très, très claires, on ne peut pas servir de maître. C'est Jésus qui dit ça. Donc sanctifiez-vous, consacrez-vous, soyez bien sûr de qui vous servez, à qui vous avez consacré votre vie, à quoi Dieu vous a appelé. Et ça, je sais que moi, c'est quelque chose qui a marqué ma vie dans les difficultés, savoir qui m'a appelé et pourquoi il m'a appelé. Une fois que vous savez ça, on peut supporter beaucoup de choses. Si on n'en est pas sûr, on revient sans arrêt en arrière. Oh, bah, peut-être que j'ai eu tort, peut-être que les difficultés sont trop lourdes, alors j'arrête, ou puis non, je vais reprendre. Et puis... Mais une fois qu'on sait qui m'a appelé, à quoi il m'a appelé, oui, il m'a appelé, je lui appartiens, je lui ai consacré ma vie, les choses sont beaucoup plus simples. Et c'est ça que Josué voulait. Pour vivre ce qu'ils allaient vivre, ils ne pouvaient pas avoir un cœur partagé. Ça, c'est clair. C'était le cas de ceux qui étaient dans le désert. Ils avaient un cœur partagé. On voulait bien les bénédictions de la terre promise, etc. Mais on voulait aussi les oignons d'Égypte et le confort qu'on avait en Égypte, malgré l'esclavage. Alors Dieu va demander à ceux qui portent le coffre de l'Alliance de passer devant et d'entrer dans le Jourdain. Alors ça, c'est curieux. Il va leur demander d'entrer dans le Jourdain. Et une fois qu'ils ont les pieds dans l'eau, c'est là que le Jourdain va s'ouvrir et laisser passer tout le peuple. C'est curieux. Il a attendu qu'ils aient les pieds dans l'eau pour que le fleuve s'ouvre. C'est intéressant. Alors, vous savez que le même phénomène s'est reproduit à peu près à cet endroit-là, en 1267, curieux, et en 1927. Donc, Dieu a dû se servir, pourquoi pas, d'un phénomène naturel. Dieu marche devant. Alors, c'est simple, hein, c'était des grands éboulis qui ont coupé l'eau pendant plus de 24 heures. Dieu marche devant, donc ils avaient une sécurité. Hein, les prêtres étaient là avec l'arche de l'Alliance. Les prêtres font preuve d'obéissance et de courage, je pense quand même, parce que l'arche devait quand même être assez lourde, et ils avançaient. Je vous rappelle ce qu'il y avait dans l'arche, les tables de la loi écrite par Moïse, le livre de la loi écrit par Moïse, la verge d'Aaron, et un peu de manne en souvenir. Donc, ils étaient guidés par les prêtres. Dieu, pour eux, Dieu marchait devant. Ils ont bien du courage, ils obéissent, ils mettent les pieds dans l'eau et le fleuve s'ouvre. Et je crois que pour nous aussi, on a cette assurance que Jésus nous a précédés. C'est écrit dans le Nouveau Testament, je ne vais pas noter la référence, mais Jésus nous a précédés. Donc, il marche devant nous. Et ça, c'est précieux. Il a ouvert le chemin pour nous. Dans certaines circonstances, Dieu peut nous demander de mettre les pieds dans l'eau. Beaucoup moins agréable. Mais parfois, Dieu nous demande d'aller jusque-là. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je ne vais pas avoir l'air ridicule? C'est là qu'il faut développer une écoute de Dieu. D'un autre sens, on va passer à l'autre extrême. Je raconte quand même cette histoire parce qu'elle doit faire réfléchir. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a eu malheureusement, je crois que c'est deux jeunes filles qui allaient à une conférence, c'est Yong Kisho qui raconte ça. Deux jeunes filles qui allaient à une conférence, qui sont trouvées devant un fleuve qui avait débordé, qui avait cassé le pont. C'était en Corée, j'imagine. Et elles ont décidé de passer quand même, puisque elles allaient servir le Seigneur, puisque Dieu avait dit d'y aller par la foi, etc. Et elles ont essayé de traverser à pied ce torrent extrêmement dangereux, et elles sont mortes, et ça a fait la une des journaux. Donc Dieu ne nous demande pas de faire des folies. Je pense que si elles avaient juste mis les pieds dans l'eau en disant « Maintenant, Seigneur, tu fais comme devant Jéricho », elles auraient compris que ce n'était pas la peine d'assister. C'est un équilibre difficile à tenir hein, dans la vie chrétienne. Il faut quand même savoir par moments s'avancer et mettre les pieds dans l'eau, mais Dieu ne nous demande pas de nous suicider. Donc il y a un minimum de sagesse et Dieu ne nous en voudra pas hein, d'être prudent et d'être sage. Donc c'est quelque chose de difficile à mesurer, hein. Je reconnais. Dieu va demander que 12 hommes, un par tribu, prennent au milieu du fleuve, donc le fleuve s'ouvre, il commence à traverser, les prêtres restent là avec l'arche, et le peuple passe, hein, comme les gendarmes quand ils font passer les sorties d'école, restent au milieu de la route et tout le monde passe. Ils vont prendre au milieu du peuple chacun une grosse pierre, afin que cela soit un signe pour vous, lorsque vos fils vous demanderont demain, là 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 là. Ah, ça c'est intéressant. Ils sont en pleine, enfin, ils s'apprêtent à faire une conquête. Il faut passer quand même assez vite, parce qu'on ne sait pas combien de temps le fleuve va être arrêté. Enfin, je ne sais pas, moi, j'aurais pas aimé ce genre de situation. Ouh. Surtout si je ne savais pas ce qui se passait en amont. Ouh là là, moi, j'aime bien comprendre ce qui se passe. Ça m'aurait vraiment déplu, ce genre de situation. Et Dieu leur demande tranquillement d'aller extraire une douzaine de pierres et de les mettre au bord, en souvenir, afin, lorsque vos fils vous demanderont demain, afin que cela soit un signe pour vous. Alors ça nous parle. le témoignage est important. Rendre gloire à Dieu. En prenant ces pierres, en les mettant pour faire un autel, un monument en quelque sorte, c'est une façon de dire « Dieu a fait un miracle ce jour-là » et de le transmettre aux enfants. Importance du témoignage et importance de l'encouragement que ça représente. Chaque fois qu'ils étaient, j'imagine, qu'ils passaient par là, qu'ils étaient découragés, ils voyaient ce tas de pierres. Ah oui, mais il nous a ouvert le fleuve. Parce qu'ils n'avaient pas vu la mer Rouge, hein, à part Caleb et Josué, ils n'avaient pas vu. C'est quand même super. C'est un témoignage. C'est un signe qui va demander une explication, d'où l'importance des signes. Alors nous, dans nos sociétés modernes, hein, on est moins signe qu'avant. Enfin, on n'a pas les mêmes, hein. Maintenant, c'est arrobas, etc. On a d'autres signes, Mais c'est un signe qui demande une explication, celui-là aussi d'ailleurs. On a gardé dans l'Église la Sainte Cène et le baptême, qui demandent une explication pour les enfants. Et c'est important d'expliquer aux enfants ce qu'on fait quand on prend la Sainte Cène et pourquoi c'est important, ce qu'on fait quand on prend le baptême. Et ce que j'ai noté ici, la transmission aux enfants était déjà capitale. Dans un moment comme ça, ils pensaient déjà à ça, transmettre aux enfants. Vous savez que dans la culture juive, l'enfant est extrêmement important. Et la transmission aux enfants est importante. Alors évidemment, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais c'est quelque chose qui fait notre vie. Ce que nos parents nous ont transmis, ce que nous, on va transmettre aux enfants. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que ce qui nous a été transmis étant petit nous marque pour la vie. Bon, c'est jamais trop tard pour s'en rendre compte, hein. Mais c'est vrai. Il se préparait à la conquête, mais il n'oubliait pas les enfants. Dans un moment pareil, il aurait pu dire, bon, allez, on a autre chose à faire. Hein, bon, non, pensez à la transmission et pensez aux enfants. C'est important pour vos enfants de savoir ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent. Des tas de choses peuvent sembler évidentes à vous, adultes, parce que vous les avez vécues, mais elles ne sont pas évidentes pour vos enfants. Les enfants ont besoin de savoir, par exemple, pourquoi vous, les parents, vous avez choisi de répondre oui à l'appel de Jésus. Est-ce que vos enfants connaissent votre témoignage? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ils ont besoin de savoir comment les grands-parents ou les arrière-grands-parents, en écrivant, je pensais à Muriel, peut-être arrière-arrière, chez vous, ça doit remonter très très loin. Comment donc tous les arrière-arrière-grands-parents ont connu Jésus comme leur sauveur? Ils ont besoin de le savoir. C'est important. Ça se transmet, ces choses-là. Ils ont besoin de savoir quels sont les miracles, les exaucements de prière de la vie des parents, grands et arrière-grands-parents. Ils ont besoin de savoir ça. C'est le monument qu'on est appelé à construire. D'accord, nous, on a passé le Jourdain, mais eux, ils ont besoin de savoir. Et j'aimais bien que mes parents racontent à mes enfants un peu ce qu'ils avaient vécu. Parce que c'est important, ça se transmet, ça. Ils ont besoin de savoir pourquoi vous préférez une relation avec Jésus plutôt qu'une religion. Et là, c'est sûr que les gens qui viennent à l'église ici, ils le savent. C'est un choix qu'on fait, de préférer une relation avec Jésus plutôt qu'une religion. Et ils ont besoin de savoir pourquoi. Pourquoi on ne se contente pas de rites du genre « tu dois pas, il faut pas », puis le reste de la semaine, on fait ce qu'on veut. Ils ont besoin de savoir pourquoi on n'a pas choisi ça, alors que des milliers de gens sur Terre préfèrent une religion qui vous laisse libre le reste du temps, on a un certain nombre de règles, on va au culte, à la messe, toujours le dimanche, et puis le reste du temps, on vit sa vie. Ils ont besoin de savoir pourquoi nous, on a fait ce choix-là. Ils ont besoin de connaître les raisons. Ils ont besoin de savoir pourquoi on va adorer Jésus le dimanche, même quand on dort une heure de moins. Surtout ce jour-là, ils ont besoin de savoir pourquoi c'est indispensable de se lever. Et ils ont besoin de comprendre que ce n'est pas un devoir religieux, mais ils ont besoin de savoir que c'est une joie, une liberté que bien des chrétiens n'ont pas dans d'autres pays, et que c'est une façon de témoigner de notre amour pour Dieu. Si on ne leur dit pas, mais c'est la mort du petit cheval, hein, de se lever le dimanche matin, quand on a été, alors là je pense surtout aux lycéens, qui n'ont pas une seule matinée dans la semaine, s'ils ne savent pas pourquoi il faut aller à l'église le dimanche matin, c'est horrible. C'est quand même lourd, c'est leur seule matinée. Si ça ne représente rien de profond, mais c'est l'horreur. Il faut savoir faire mémoire. Alors là, je m'adresse à moi-même. D'ailleurs, c'est en général, quand je prêche, j'en ai autant pour moi. Pourquoi pas une photo de votre baptême, un album photo de tous les moments où vous avez vécu des exaucements de prière. Une réussite, un examen, un exaucement de prière que vous avez attendu longtemps. Pourquoi pas faire un album photo, ou maintenant un DVD, j'imagine. hein, avec tous les moments où vous avez été exaucé, où on vous voit, waouh. Et pouvoir dire, bah, tu vois, ce moment-là, voilà mon monument de pierre, là, mes 12 pierres, à ce moment-là, j'ai vécu ça. Tu vois ma tête là, bah, c'est parce que je venais de vivre ça. Et pourquoi pas faire mémoire? Vous savez que les Juifs étaient très à cheval là-dessus. Donc je vous propose ça. Donc bien sûr. Et quand on a rencontré son mari. Bref, un monument à la gloire de Dieu qu'on peut transmettre aux enfants. Pensez-y, réfléchissez là-dessus, parce que je pense que c'est important. Hein, on n'y pense pas parce que nous, on l'a vécu, mais il faut peut-être penser au suivant. Voilà. Alors, je vais revenir à mes moutons. Les 12 pierres sont déposées au campement. Josué, lui, va aussi en poser 12 au centre du fleuve. On ne les verra pas, mais elles seront là. Je n'ai pas, peut-être vous avez une révélation là-dessus. Moi, je n'en ai pas eu particulièrement, je ne vais pas chercher, mais voilà. Cet épisode va surtout confirmer Josué aux yeux du peuple. Il va avoir la même autorité que Moïse. Le fleuve se referme dès que les prêtres et le coffre l'ont quitté. Ça, c'est important. Quand c'est plus nécessaire, le fleuve se referme. Parfois, Dieu nous ouvre des portes comme ça pour un temps, puis après, il les referme. Verset 24. Et ça, c'est important. C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte et afin que vous craigniez toujours le Seigneur votre Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte et que vous craigniez toujours le Seigneur votre Dieu. Quel est le but des miracles dans notre vie, dans notre église, dans notre famille? C'est pas notre gloire à nous. C'est pas notre supériorité. Vous savez, Dieu est avec nous dans notre église. Hein. Oh là là, on est la meilleure église, on a le meilleur mouvement. C'est pas pour notre confort non plus, mais c'est pour savoir qui est Dieu et pour le craindre. Et ça, il faudrait bien qu'on se rappelle. Vous savez, souvent, je me dis, j'en ai déjà parlé avec Philippe, et c'est vrai que je me dis, parfois, j'aimerais tellement qu'on ait des miracles plus nombreux dans l'église. On en a, Dieu répond, la preuve, hein, c'est que la petite dame, elle l'a vu tout de suite au premier coup d'œil. Mais j'aimerais bien en avoir plus. Mais à chaque fois, je me dis, est-ce qu'on sera capable de rester sur cette position, même si on a des miracles dans l'Église, afin que les peuples autour de nous sachent que la main du Seigneur est une main forte et qu'ils craignent le Seigneur Dieu, et rien d'autre. Et qu'on n'ait pas envie de s'entendre dire, quelle bonne Église, comme ils sont bien ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont bien prié, c'est pour ça qu'ils ont des miracles. Ça serait la cata, ce serait dommage. Je me dis, est-ce que Dieu nous trouvera assez fidèles pour nous donner des miracles et qu'on ne dise pas de sottises? C'est toujours une question qui est dans mon cœur. Rahab, elle avait très bien compris ça et c'est pour ça qu'elle a été sauvée. Ce n'est jamais notre théologie ou notre église ou notre mouvement d'église ou parce qu'on prie mieux que les autres. C'est afin que les peuples sachent que la main du Seigneur est une main forte et que l'on craigne le Seigneur notre Dieu. Qu'on garde bien ça dans la tête, c'est pour ça que je le répète. Et notre tendance humaine... Dans ce domaine, on a un gros ennemi à combattre, là. Qu'on reste sur cette position. Et puis, au chapitre 5, il va y avoir ce temps de circoncision de la nouvelle génération. Donc, c'était mis à part, ils avaient mis les choses bien en règle, purifiées, etc. Et maintenant, on s'aperçoit que personne n'avait été circoncis depuis la sortie d'Égypte. Et les enfants ne l'étaient pas. Donc, il va falloir refaire ce signe d'alliance individuelle avec Dieu. En tant que peuple, ils s'étaient mis à part, etc. Mais Dieu avait demandé un signe d'alliance individuelle et ils vont le respecter. Et après ce temps de circoncision, il y a un verset très important où Dieu dit « J'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« J'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte ». Alors ça veut dire qu'ils ne sont plus des esclaves enfuis d'Égypte, mais ce sont des hommes libres qui ont fait une alliance avec Dieu. Et c'est important avant d'entamer la conquête. Nous ne sommes plus des pécheurs enfuis du royaume des ténèbres. Nous ne sommes plus des pécheurs qui se sont enfuis du royaume des ténèbres. On est maintenant de nouvelles créatures qui appartiennent au royaume de la lumière. Et c'est important de le savoir. Dieu a roulé notre déshonneur à la croix. Et ça, c'est important d'en être bien conscient. Notre déshonneur, notre culpabilité a été vraiment roulée, éloignée. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ce lieu Gilgal. Alors, il y a deux étymologies possibles, mais une des deux, c'est celle-ci. Rouler, rouler, rouler le déshonneur. C'est important, parce qu'on ne peut pas entrer dans la conquête si on n'a pas fait une alliance claire et personnelle avec Dieu. Et si on n'a pas la conscience que notre faute, notre déshonneur a été enlevé, roulé, loin de nous. Il s'agit plus dans ce cas d'un ramassis de gens, mais c'est maintenant l'armée de l'Éternel qui appartient à Dieu et qui lui obéit. Ça change le point de vue. Quand on n'était qu'un ramassis de gens, des esclaves enfuis d'Égypte, vous voyez, ils n'avaient pas le même poids, ils n'avaient pas la même autorité. Et ils avaient encore cette culpabilité quelque part sur eux. C'était encore la mentalité d'esclave. Dieu seul peut rouler loin de nous le déshonneur de notre péché. Et vous connaissez bien ce verset, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, et bien sûr, ils ne se rejoindront jamais, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et ça, c'est toujours important de le savoir, parce que trop souvent, j'ai malheureusement vu souvent des gens qui restaient encore sous une culpabilité, alors que la promesse de Dieu est formelle. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne de vous vos transgressions. Donc, au moment du baptême, hein, c'est aussi un symbole d'alliance individuelle avec Dieu, comme la circoncision. Je pense à ceux qui préparent le baptême, là. C'est vraiment un moment où Dieu, ouvertement, publiquement, va rouler notre déshonneur. C'est important. Puis ils vont célébrer la Pâque. Ils mangent pour la première fois les produits du pays. Et le lendemain, plus de manne. Il y avait des avantages, mais des inconvénients, parce que là maintenant, il va falloir labourer, semer, planter, cultiver, moissonner et recommencer, etc. Au début de notre vie chrétienne, parfois les choses paraissent un peu plus faciles. Quand on est jeune aussi, je crois que Dieu nous permet d'avoir la manne régulièrement, puis on vit aussi sur la carte de crédit spirituel des parents, parfois, hein, financière peut-être aussi, mais... Hein, spirituellement aussi, quelquefois, hein, surtout pour les enfants de chrétiens, c'est facile de vivre sur la carte de crédit spirituelle des parents. Et puis, il y a un moment où la manne cesse et il faut chercher Dieu par soi-même. C'est important. Un jour, il faut assumer, il faut partir à la conquête et se nourrir soi-même. Et ça, c'est vrai dans la vie chrétienne. On ne vit pas toujours dans le désert non plus, parce que c'est vrai que dans le désert, Dieu nous donne la manne. Des moments de désert dans notre vie, heureusement qu'on a la manne, sinon on serait mal. Dieu prend soin de nous. Mais il y a des moments où il faut apprendre à obéir et à dépendre de Dieu pour faire la conquête. Et en plus, obéir et collaborer avec Dieu. Et je cherchais un verset, je l'ai trouvé, c'est 1 Corinthiens 3, 9. Ouvrier avec Christ. Et il y a des traductions qui disent collaborateur avec Christ. Donc il y a un temps, peut-être, c'est vrai, on vit une période désertique et le Seigneur nous nourrit, etc. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste tout le temps comme ça. Il y a un moment où il faut collaborer avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu, c'est-à-dire travailler. Beaucoup moins agréable, mais bon, il faut le dire. Hein. D'un autre sens, la manne, ils en avaient parfois un petit peu marre, donc c'est quand même bien qu'ils sèment et qu'ils moissonnent et qu'ils mangent autre chose. Maintenant, toutes les conditions sont réunies pour commencer la conquête de Canaan. On va faire un petit résumé des conditions, parce que dans notre vie, c'est la même chose. Si on veut conquérir, hein, et briser les liens qui pèsent sur nous, voilà un petit peu la liste, elle est longue, hein, des choses qui doivent être éliminées de notre vie. Le doute, la rébellion et les mauvaises motivations ont été évacuées. C'est triste, mais ça a demandé 40 ans dans le désert pour que tous ceux qui étaient dans cet esprit meurent. Bon, alors Dieu ne veut pas la mort du pécheur, heureusement. Et nous, il peut nous aider à nous débarrasser du doute, de la rébellion et de toutes les mauvaises motivations. Parce que là, on ne pouvait pas faire de conquête avec le doute, la rébellion et les mauvaises motivations. Pas question de conquérir nos ennemis intérieurs, d'avoir le dessus si on a encore ça dans le cœur. Ça, c'est net. Le peuple aussi a appris à obéir à Dieu. Je suis étonnée, moi. Il n'a pas discuté devant le Jourdain. Moi, j'aurais peut-être discuté. Je ne dois pas être bien, alors. Parce que quand même, dire, mais attends, Josué, attends. C'est juste une histoire de quelques semaines, là. T'attends qu'il descende un peu le fleuve, et puis, comme ça, Dieu fera un miracle, mais peut-être pas aussi important. Enfin, bon, tu vois quoi ce que je veux dire, hein. Non, ils n'ont pas discuté. Moi, je suis épatée, quand même. Parce que le doute, la rébellion et les mauvaises motivations étaient morts au désert. Alors que les nôtres aussi meurent au désert. Ensuite, c'est un peuple qui maintenant est conscient de son appel. Ensuite, pendant les 40 ans, il a appris les lois, les commandements de Dieu. Il a appris comment adorer Dieu, comment le servir. Et il a aussi appris la patience. Ouh, le vilain mot. Surtout quand on est jeune. Hein. La patience, ce n'est pas notre fort. Hein. Je suis restée jeune. L'Égypte non plus ne lui colle plus à la peau. Et ça, c'est important. L'Égypte lui collait à la peau à ce peuple. Hein. Le style de vie, la religion, l'abondance... Les liens de l'esclavage, l'impossibilité d'être conquérant parce qu'ils avaient une mentalité d'esclave. Et ça, l'Égypte ne lui colle plus à la peau. Alors c'est John Bevere qui dit, ils ont été lavés de la poussière de l'Égypte, façon de dire. L'Égypte ne lui colle plus à la peau. Il a compris aussi, le peuple, donc l'importance de l'unité et de la solidarité. Parce que je ne voulais peut-être pas raconter, mais il y a 3 tribus, quand, avec Moïse, juste avant la mort de Moïse, ils avaient fait la conquête d'un beau territoire au sud. Et il y avait Sion et Og, les rois avaient été tués, etc. Et ben, il y en a qui sont venus voir, c'était Ruben, la moitié de Manassé, etc. Qui sont venus voir Moïse en disant, bah, tu sais, tu pourrais peut-être nous donner ce terrain. Ben, les autres n'ont pas protesté, Moïse a dit, ok, mais attention. Vous installez vos femmes, vos enfants, vos troupeaux, mais vous, vous allez vous battre avec les autres. Hein. Un peu de solidarité, les gars. Il ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais bon, ça revenait à ça. Et c'est important parce qu'on voit cette solidarité qui reste avec Josué. Ils n'ont pas profité de la mort de Moïse pour dire, bon, c'est passé, on va peut-être rester ici tranquille. Non, ils disent à Josué, non, on va aller se battre avec les autres. Ouh, ils ont fait des progrès. Il prend le temps de se sanctifier, de se consacrer, on en a longuement parlé. Il renouvelle son alliance individuellement par la circoncision. Il célèbre la Pâque, donc il se rappelle la sortie d'Égypte. Et il prépare la transmission aux enfants. Vous voyez, là, il est parfaitement prêt pour faire la conquête. Il ne lui reste plus qu'à recevoir les ordres et la stratégie pour la première bataille. Ah ah ! Moi, je sais pas, j'avais été à leur place, j'ai dit, comment on va faire ? D'accord, il nous a ouvert le Jourdain. Mais maintenant, devant cette ville énorme, alors, quand on regarde de près, ça fait beaucoup de conditions. Ça veut dire aussi qu'on ne se lance pas à l'aveuglette dans la conquête de notre Canaan. Tous ces ennemis intérieurs qui nous pèsent, on ne peut pas faire ça n'importe comment. On ne peut pas le faire à la force du poignet. Par ma volonté, je vais y arriver, etc. On ne peut pas se lancer à l'aveuglette dans la conquête de Canaan. Alors, que ce soit faire avancer le royaume de Dieu au travers de notre carrière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est appelé à ça. On n'a pas une vie comme ça, on n'est pas ces maraudeurs qui vont conquérir des terres. On répond à un appel de Dieu dans notre vie. Et donc, on est appelé à faire avancer le royaume de Dieu au travers de notre travail, de notre boulot de tous les jours. On est appelé à faire avancer le royaume de Dieu au travers de notre famille, au travers du ministère que Dieu nous a donné, être un ambassadeur de Christ au quotidien, même quand on va au supermarché. Eh oui. Donc, on ne se lance pas à l'aveuglette dans cette conquête de Canaan. Dans tous les domaines de notre vie, il y a une préparation qu'il ne faut pas négliger. Et ça, on en a parlé longuement, mais je crois qu'il faudra peut-être y réfléchir, parce que souvent, on vit... J'ai aimé ce que disait tout à l'heure Yves, il parlait de la fatigue. Je ne sais pas jusqu'à quel point la fatigue... Bon, il y a la fatigue normale, mais souvent, on est fatigué, peut-être parce qu'on ne s'est pas toujours bien préparé pour la conquête. Parce qu'il y a un truc qui me surprend. Après Jéricho... C'est un commentateur, c'est pas, malheureusement pas moi qui ai trouvé ça toute seule. J'aurais pu. Et ils disent qu'après Jéricho, ils ont tourné donc une fois par jour, on va en parler tout à l'heure, et puis après le dernier jour, ils ont tourné 7 fois. Et après, chacun devant soi est allé à la conquête. Et le soir, ils pétaient la forme. Enfin, ça se voit dans la façon dont ils parlent, quoi. Et je me dis, si on se prépare bien, si on suit les ordres de Dieu, on est beaucoup moins fatigué. Et souvent, je me demande, jusqu'à quel point notre fatigue ne vient pas du fait qu'on ne s'est pas assez préparé et qu'on n'a pas assez écouté Dieu. Ceci étant, on peut aussi être très fatigué. J'en fais pas une règle, mais on peut se poser la question. On peut se poser la question. Josué est maintenant à Jéricho. La Bible dit qu'il était devant Jéricho. La ville est fermée. J'aime bien la Bible. C'est un peu humoristique parfois. La ville est fermée. On ne peut ni entrer ni sortir. Puis Josué est là, devant Jéricho. Une situation complètement bloquée. Mais Seigneur, tu nous as fait traverser le fleuve, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas être plus bloqué qu'on est aujourd'hui. Josué attendait certainement une réponse du Seigneur, quand tout d'un coup, il voit en face de lui un homme et son épée tirée. Passage qu'on connaît tous par cœur, parce qu'on l'aime beaucoup, quand cet homme dit à Josué, quand Josué lui pose la question, évidemment, qui es-tu ? Es-tu avec nous ou contre nous ? Il dit, voici, je viens maintenant. C'est la traduction seconde. J'ai bien aimé la réaction de Josué, elle est différente de Jacob. Vous vous souvenez, Jacob, quand... Bon, c'est vrai que lui, il s'est fait attaquer directement, mais il s'est battu sans savoir à qui il se battait. À la fin, il s'est dit, il y a quelque chose. Ça, c'est Jacob. Josué n'a pas cette réaction, hein. C'est marrant. Il est courageux, moi, je trouve. Il va au-devant de cet homme. Le gars, il a son épée tirée, quand même. Puis, il devait être assez impressionnant. Et il va au-devant de lui et il lui dit, mais qui es-tu ? Il est quand même très sage, parce qu'il aurait pu lui foncer dessus, lui taper dessus. Mais il a la sagesse de poser des questions avant de taper. Quand on est parent, parfois, c'est peut-être nécessaire. Pour ce qui me concernait, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il a une super réaction de courage. Tu es avec nous ou tu es contre nous? C'est un chef militaire, il est très courageux, il va marcher droit vers l'homme. Il se définit, cet homme, comme le chef de l'armée du Seigneur, et immédiatement, Josué a compris, il se prosterne. Et la conclusion de tous les commentateurs, c'est que ce n'était pas un ange, ce qu'il l'aurait relevé. Un ange n'accepte jamais qu'on se prosterne devant lui, dans la Bible. Donc, j'ai vérifié, j'ai regardé Gédéon, etc. Il ne s'est pas prosterné. Hein. Donc, c'était vraiment le chef de l'armée de l'Éternel. Certains pensent que c'est un type de Jésus, c'était Jésus lui-même. Enfin, bon, je ne suis pas théologienne, donc je ne rentre pas là-dedans. Josué était prêt à écouter. Aussitôt, il reconnaît que son autorité de chef militaire est soumise au chef de l'armée de l'Éternel. Ah. Et ça aussi, nous, on est appelés à ça. On a beau être chef de famille, on a beau avoir une autorité dans notre travail ou dans l'Église. L'indispensable, c'est d'être soumis aux ordres du chef de l'armée de l'Éternel. Sinon, aïe, aïe, aïe. Avant tout, Dieu veut marquer la sainteté. Alors, c'est curieux parce qu'il lui pose la question. Et la première chose qu'il lui dit, c'est « ôte tes chaussures, ce lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Alors, le lieu n'était pas saint parce qu'il y avait des ondes, machin, choses, comme croient certaines personnes. Non, le lieu était saint parce que Dieu était présent. Et tout lieu où Dieu est présent est saint. Et on est appelé à ôter nos chaussures, pas physiquement, parce que ça c'est facile, mais spirituellement. Hein, on enlève la boue de tout ce qu'on a traîné avec nous, etc. C'est ça de côté. Dieu veut marquer la sainteté du lieu où il se tient. C'est exactement la même situation qu'avec Moïse au buisson ardent, vous vous rappelez? Enlève tes chaussures, que celui sur lequel tu marches est saint. Parce que Dieu est là. Le temps passe, je vais être obligée de m'arrêter là, malheureusement. Pour moi, pas pour vous. Donc, ils vont prendre la ville et Dieu va donner un plan très simple, mais complètement ridicule. Très simple, franchement, marcher autour de la ville 6 jours, puis le 7e jour, cette fois. C'était pas compliqué. Josué va obéir scrupuleusement et il va transmettre aux prêtres et au peuple l'ordre du Seigneur. Il prend l'ordre qu'on lui a donné, il le transmet immédiatement aux prêtres et au peuple, dans cet ordre-là. La stratégie de Dieu est franchement plutôt bizarre. Mais Josué ne proteste pas. Moi, je ne sais pas, j'aurais peut-être dit, mais enfin, Seigneur, on n'a jamais fait ça. La dernière fois, la prière de Moïse avait suffi. Il y avait juste besoin de 2 personnes qui lui tenaient les bras. Et c'était top, il n'y avait pas de souci. Pourquoi on ne fait pas la même chose? On n'a jamais fait comme ça. Ou bien juste avant la mort de Moïse, là, Sion et Og, on a livré bataille, et plouf, plouf, on a tué les rois, c'était fini. Pourquoi là? On ne peut même pas livrer bataille. Mais je crois qu'il avait compris quelque chose, tout chef militaire qu'il était, à chaque bataille, sa stratégie. À chaque bataille. Et ça, c'est quelque chose qui nous est difficile à nous, en tant qu'humains, parce qu'on aime bien faire la même chose que la dernière fois. C'est rassurant, c'est sécurisant, et à chaque bataille, sa stratégie. Et dans notre vie personnelle, contre nos ennemis intérieurs, tout ce qui peut peser sur nous, il y a une stratégie pour chaque ennemi, qui n'est pas forcément la même, j'allais dire presque toujours différente. Non, parfois Dieu veut bien faire la même chose, mais Dieu est tellement varié, contrairement au diable qui fait tout le temps la même chose, il va utiliser les mêmes trucs. Vous avez Balaam, les ruses de Balaam, elles marchent encore 3 millénaires après, elles marchent toujours. Qu'est-ce qu'il me racontait? C'est ta maman, je crois, Cathy, qui disait qu'en Israël, les extrémistes arabes utilisent la stratégie de Balaam. Ils vont épouser des filles juives, il y en a 3 000, je crois que c'est dans ce cas, 30 000, épouser des filles juives et les rendre malheureuses comme les pierres, les taper, etc., pour casser le moral du peuple juif. Bon, voyez, la stratégie de Balaam, on est 3 000 ans après, marche toujours, le diable, mais Dieu, il est infiniment varié. Il nous laisse la liberté, il est infiniment varié. Bon. Donc, il aurait pu dire ça. À chaque bataille, sa stratégie. D'où l'importance d'écouter Dieu et de ne pas recopier ce qu'on a fait la fois précédente. Il y a aussi un côté ridicule à la situation. Moi, quand même, je trouve. Mais ça ne semble pas affecter Josué. Moi, j'aurais quand même... On a peur du ridicule, quand même. En France, surtout. Très peur du ridicule, parce qu'on a un pays qui aime bien juger. Et quand on est ridicule, hein, ça fait mal. Parce que, écoutez, le rapport de force entre Jéricho, avec ses soldats, ses armes, et puis de l'autre côté, l'arche avec les prêtres et les cornes de bélier, c'était même pas des trompettes en or, c'est des cornes de bélier, ça pouvait attirer la moquerie des gens. Et j'imagine que les gens sur les murailles de Jéricho, ils devaient se marrer quand même, ceux qui n'avaient pas trop peur. De la même façon que prier à genoux pour une situation, ça peut sembler tout aussi ridicule et disproportionné. Je me souviens quand on était au Canada et on cherchait un logement, et puis on avait témoigné au gars qui nous logeait, c'était un copain de promo d'André, et ça m'a frappé ce qu'il avait dit, je ne sais pas pourquoi, je m'en souviens encore. Dit, bon, bah, croyez pas que c'est en restant ici à prier que vous allez trouver votre appartement. Cet après-midi-là, on l'a eu d'ailleurs. Mais c'est ça, les gens trouvent ça tellement ridicule. Ça entraîne la moquerie. On peut aussi trouver ridicule de dire, mais demander pardon, c'est pas ça qui va débloquer une guérison. Et pourtant, combien de guérisons ont été débloquées simplement par une demande de pardon? Accepter Jésus dans sa vie, demander pardon pour ses fautes, tu crois que c'est ça qui va changer ta vie? C'est ridicule. Eh bien oui, ça marche. Ça peut transformer toute vie, toute circonstance. L'honneur aussi du chef militaire Josué face au peuple risquait gros quand même. Non mais vous voyez pas, c'est quand même un grand chef militaire Josué. De quoi il va avoir l'air à marcher autour de la ville avec les prêtres et avec l'arche? C'est complètement idiot. Un chef militaire qui avait déjà gagné une bataille sur les Amalécites, il avait quoi, 25 ans? Et il est là à plus de 60 ans à marcher autour d'une ville. Son honneur de chef militaire était quand même en cause, je suis désolée. C'était pas élogieux pour sa réputation, mais il l'a fait. Et il était très sage. Il a demandé aux gens de ne pas parler en tournant autour de Jéricho. Pourquoi? Vous avez une idée, les enfants? Pourquoi il ne fallait pas parler en tournant autour de Jéricho? Parce qu'ils auraient dit des bêtises. Moi, je suis sûre qu'arrivés au bout de quelques mètres, ils auraient commencé à dire « On en a encore pour longtemps. On est bientôt arrivés !» Pourquoi est-ce qu'on tourne autour de cette ville? Tu ne crois pas que Josué, il a perdu la boule? On n'a jamais entendu parler de ça. Tu imagines les Égyptiens s'ils nous voyaient aujourd'hui et ils auraient commencé à être négatifs, négatifs, négatifs. Et... Ah oui, en plus, ça leur rappelait des mauvais souvenirs, t'as raison. Et ils ne se sont pas découragés parce qu'ils se sont tus. Et vous savez, parfois, dans la difficulté, je crois qu'il faut savoir se taire. Parce que si on ouvre la bouche, on se décourage. Et se taire intérieurement aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que ce qui sort de la bouche, mais dans nos pensées, savoir mettre silence dans nos pensées pour dire si je commence à penser à la situation dans laquelle je suis mort. Donc je refuse, j'y vais par la foi, je compte sur le Seigneur. Josué était sage. Ils se seraient découragés les uns les autres. Le symbole du coffre de l'Alliance, dont je l'ai dit tout à l'heure, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu d'eux. Alors vous avez remarqué, il y avait l'avant-garde de l'armée, les prêtres, 7 prêtres avec les cornes de bélier, et ils marchaient au son de la corne de bélier. Je ne sais pas quel ton ça faisait, mais ça rythmait leurs pas. Ça, ils étaient sûrs de marcher tous d'un même pas, très important. Les prêtres avec le coffre et l'arrière-garde. Et ils tournaient autour de la ville comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Donc, je l'ai déjà dit. Ça rappelait l'obéissance à l'étape des 10 commandements, la loi, l'attachement à la bénédiction qui était liée au commandement. Tout ça, ils le savaient. Hein. La verge d'Aaron qui leur rappelait qu'il y avait un appel et un choix de Dieu qu'il fallait respecter. Et la manne qui leur rappelait que Dieu pourvoyait. Ils se promenaient avec tout ça. Ils se promenaient avec leurs souvenirs, encore une fois. Ils se promenaient avec leurs souvenirs. Dieu, quand il appelle, il faut faire attention. Et c'était valable pour leur appel à eux aussi. Dieu pourvoit. Dieu nous bénit quand on s'attache à sa parole et l'obéissance à la loi. Il se promenait avec ça. Alors nous aussi, peut-être, on y réfléchira peut-être la prochaine fois. C'est des choses qui peuvent nous encourager dans notre bataille contre nos ennemis intérieurs particulièrement. Et puis, les trompettes pour proclamer la victoire. Les murs vont s'écrouler. C'est le meilleur moment, mais il avait été bien préparé. Hein.